Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Plus de 60 morts cette semaine au Mali dans des attaques et conflits intercommunautaires. Au même moment, le transfert du quartier général du G5 Sahel de Sévaré à Bamako est annoncé. Où en sommes-nous avec la sécurisation du pays? Quels sont les objectifs à atteindre? Comment y arriver? Serge Daniel, journaliste écrivain, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, et Mohamed Ag Issa Feitan, correspondant de Studio Tamani à Menaka, sont nos invités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je le disais tout de suite, Serge, plus de 60 morts alors qu'il y a quelques jours, le président de la République annonçait que la sécurisation du pays va être une de ses priorités. Alors, où en sommes-nous avec cette sécurisation du pays?
Mais évidemment, on attend toujours cette sécurisation. Il faut préciser, 60 morts, ce ne sont pas des militaires la plupart.
Des civils.
Ce sont des civils. Oui. C'est ça qui est particulier. Si c'est au combat, ça peut arriver. Mais ce sont des civils qui sont tués. Et quel civil? Vous avez une fraction de Touareg, j'aime pas les Touareg noirs, des métis, si vous voulez, les Bogolotanes, dans une localité où il n'y a pas l'administration. Et un peu plus vers la frontière, vous avez d'autres Touareg qui sont tués. Donc ce sont des populations civiles. Il y a quand même besoin d'avoir un communiqué du gouvernement. Il y a eu un communiqué sur les 27 premiers morts, mais quand même, peut-être qu'il fallait se déplacer pour aller les assister, il fallait aller là-bas seulement pas pour la photo. C'est quand même grave ce qui s'est passé en moins de 72 heures.
Baba Dakono, est-ce que c'est passé inaperçu?
Non, inévitablement, ça ne peut pas passer inaperçu. De tels actes qui sont tout le temps déplorés, mais je rejoins Serge sur le fait que finalement, c'est le traitement ou la prise en charge politique de ce qui s'est passé récemment. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une certaine forme de communication, un certain accompagnement des pouvoirs publics sur la question des pouvoirs publics locaux, des pouvoirs publics au niveau régional, mais également au niveau national. Et c'est vrai que les incidents qui sont regrettables sont intervenus également dans le cadre d'un agenda très serré. Au même moment, les gens étaient focalisés sur le sommet le sommet de l'ONU à New York. En même temps, on parlait du transfert du quartier général du G5 Sahel, de la force conjointe. Donc, en fait, ce qui s'est passé est paru un peu comme noyé dans le foisonnement de l'actualité, comme on a l'habitude de le voir dans le Sahel depuis quelques temps.
Mais quand on regarde la sécurisation du pays, est-ce qu'elle s'améliore ou est-ce qu'elle se dégrade de jour en jour?
C'est très difficile à dire. C'est très difficile de parler d'amélioration quand on voit que la menace principalement liée au terrorisme, mais également à la criminalité organisée, s'est répandue du nord vers le centre, et même c'est sur d'autres pays, l'exemple du Burkina, l'exemple du Niger. Donc c'est difficile de dire qu'il y a une amélioration. Il y a une dégradation certaine du contexte sécuritaire, mais il y a surtout l'émergence de nouveaux types d'incidents sécuritaires qui sont liés en plus du terrorisme auquel les autorités maliennes et leurs partenaires font face depuis la campagne militaire franco-africaine de la mi-janvier 2013. Il y a donc l'émergence de conflits inter- et intracommunautaires dans le nord du pays à Menaka, comme on l'a vu avec ces incidents regrettables, mais également dans le centre du pays. Donc la situation s'est dégradée. Il y a eu l'émergence, sinon beaucoup plus de violence dans des conflits historiques qu'on savait moins violents, qui se réglaient à coups de bâton devant, ou qui se faisait à coups de bâton et se réglait devant le chef de village. Donc nous avons beaucoup plus de violence, nous avons une crise sécuritaire qui se pose avec beaucoup plus d'acuité et avec un espace territorial beaucoup plus grand que cela n'était en 2013.
D'accord, justement, à Menaka, des violences ont fait une trentaine de morts dans la région. Mohamed Ag Issa Feitan, vous êtes sur place. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la situation à ce jour?
Voilà, merci beaucoup, Touré. Je crois que, d'une manière générale, la situation sécuritaire dans la région, en tout cas, reste préoccupante, hein, malgré la volonté affichée des uns et des autres d'y mettre fin. En rappel, au mois de juin et de juillet, on a assisté à des terribles dans la zone de Zimbabwe, au sud-ouest de Menaka, et puis à l'est d'Andrambokan, puis en Jangalan, à l'ouest, où récemment plus de 25 personnes, 26 selon certains bilans, ont été tuées. Et tous ces actes sont soit des règlements de comptes intra- ou intercommunautaires, ou liés à d'autres formes de violence d'inconnu. Dans la ville de Menaka, toutes les trois minutes, presque, on assiste à des braquages dans des familles, dans les rues ou ailleurs. Toutes les opérations sont menées par des hommes armés non identifiés dans nombre de cas. Un exemple parmi tant d'autres pour dire compte d'une fois la situation vraiment est préoccupante. Selon le directeur du centre d'animation pédagogique que nous avons approché un peu avant la rentrée, en 2017, sur les 127 écoles de la région, 66 avaient ouvert entre octobre et décembre 2017. Parmi les centres inrestants, 13 sont restés fermés toute l'année. L'insécurité à Tidji est l'une des principales causes de cette situation. Sur l'axe Menaka en Songo, on constate une accalmie depuis l'installation des pharmacies de Barkat dans la zone du Ligumel, mais on ne peut pas affirmer à l'heure que la situation est vraiment maîtrisée. Alors, les commentaires sur cette situation des députés diffèrent d'un citoyen à l'autre. Hein. Certains s'étonnent qu'avec la présence des PAMA, de la force Barkhane, de l'administration et des mouvements armés, que la situation perdure. D'autres reconnaissent, n'est-ce pas, que c'est difficile de maîtriser la situation à cause de l'immensité de la région et des moyens logistiques qui varient d'une force à une autre. Pour finir, je rappelle qu'il existe un cadre de concertation de menée réunion de sécurité qui se réunit tous les 7 jours pour prendre les points de la situation sécuritaire et trouver en tout cas des mesures appropriées, n'est-ce pas. Le cadre présidé par le gouverneur des régions comprend les forces en présence, les FAMA, Barkhane, Minusma, Mouman, les maires, les préfets, les représentants des jeunes, les autorités intermédiaires. Autre phénomène qu'il faudrait également citer, c'est que l'administration ne sort pas de la ville de Menaka, quand bien même elle est même famille des patrouilles, elle ne sort pas de la ville de Menaka, elle ne part pas à plus de 15 km d'après certaines informations. Les forces qui pourront sortir, c'est peut-être Barkhane et peut-être les FAMA. Comme le vient de le dire Serge Daniel, on est à 100 km à l'ouest de Menaka. Non seulement la route est très très mauvaise, et même si on l'a pratiquée, il faut faire énormément attention aux engins explosifs. Donc la situation est vraiment difficile et ce ne serait pas en tout cas pour demain.
Serge, la question qui se pose aujourd'hui est qu'est-ce qui se passe réellement au nord du pays et au centre du pays?
Je voulais apporter une précision. Tout à l'heure, tu me permets, je ne te rectifie pas, mais ce ne sont pas des affrontements intercommunautaires, les deux derniers éléments. Ce sont des assassinats ciblés. C'est-à-dire que ce sont des populations qui sont dans des localités qu'on appelle des campements, donc de petits villages, des hameaux plutôt. Et ce sont des gens qui sont venus à moto qui ont tiré sur eux. Donc ce n'est pas un conflit intercommunautaire.
Pourtant, dans le communiqué du gouvernement, c'est ce qui est dit.
C'est ce que le gouvernement dit. Non, on n'a pas les mêmes informations. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des tribus, chers amis, qui se sont battus entre elles. Ce sont des populations qui étaient chez elles, dans des campements, dans des hameaux. Des gens sont venus, les violenter, et puis les ont abattus. Donc vous avez le 25 morts vers le Niger, vous avez eu 22 morts. C'est incroyable. Alors, quand vous dites qu'est-ce qui se passe en réalité, je pense que c'est la preuve qu'on n'a pas encore trouvé comment faire passer le fil par le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, c'est C-H-A-S, c'est-à-dire le trou d'une aiguille. Je suis arrivé à un moment, à un niveau où je me dis, mais peut-être que moi-même, je n'ai pas de solution à proposer. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on a tout essayé. On a des milliers de soldats de l'ONU qui sont dans le nord du Mali.
Mais vous dites que ce sont des assassinats ciblés. Pourquoi ces gens vont quitter leur endroit pour aller tuer des civils,
mais
pas
parce
des militaires?
Parce qu'ils ont des comptes à régler, parce qu'il y a entre eux des rapports de force, des rapports, des conflits probablement sociaux. Et voilà, c'est ce qui se passe. Mais il n'y a pas, surtout dans le dernier cas, ce n'est pas un affrontement, ce ne sont pas des affrontements.
Mais c'est quand même entre des communautés différentes.
Ce sont des communautés qui viennent tirer d'autres. Est-ce que maintenant, c'est teinté de djihadisme? Parce que la réalité dans ces localités, à la frontière Mali, Burkina, Niger, et ça je suis persuadé que l'État islamique au Grand Sahara joue un rôle très important, c'est qu'il y a un recrutement local de différentes populations, de gré ou de force d'ailleurs. Est-ce que ça joue dans les conflits auxquels nous assistons aujourd'hui? Moi je vous avoue, je ne sais pas.
Vous semble-t-elle être un assassinat ciblé ou un conflit entre communautés, Baba Dakoun?
Non, je pense que c'est une question de contenu, une question de sémantique et une question de manifestation. Parce que tout ça rentre dans le cadre de rapports entre certaines communautés. Maintenant, comment ça se manifeste? Comme Serge l'a dit, je pense que fondamentalement, on n'est pas en désaccord. Ces affrontements ou ces représailles ou ces règlements de compte sont en fait des manifestations de ce conflit qui perdure depuis des années. Pour rappel, il y a eu, et ça me permet de parler de la question de qu'est-ce qu'il faut faire. On a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, mais on a certainement essayé des choses à minima. Donc je disais, il y a le conflit perdure depuis des années. Il y a eu, pour rappel, des accords entre certaines communautés, mais les accords n'ont pas pu produire l'effet de paix souhaité parce que il y a des parties prenantes qui sont plus ou moins impliquées à des phases réduites dans le processus de conclusion de ces accords. Je prends le dernier accord qui avait été conclu entre Daoussa et Kepel, et on se rend compte qu'une grande partie de la mise en œuvre de cet accord reposait sur des services qui ne pouvaient être fournis que par l'État. Donc il y avait beaucoup de choses que l'État devrait faire. Mais l'accord, on a l'impression que c'est conclu entre deux communautés, alors que la plus importante partition à jouer revenait à l'État, qui n'était pas directement impliqué ou qui l'a été à un moment très avancé du processus. Donc ce qui explique que cet accord n'a pas produit les effets escomptés. C'est juste un exemple pour dire qu'on a essayé beaucoup de solutions, mais on a l'impression que ces solutions sont à minima. Et c'est des solutions qui interviennent en réaction à un problème. Par exemple, il y a un affrontement tout de suite, on va aller signer un accord ou un cessez-le-feu, sans gérer le problème qui a amené justement l'affrontement. On règle la question des affrontements, mais ce qui oppose fondamentalement les communautés ou les corporations, parce que c'est d'abord aussi des conflits de compétition autour des ressources naturelles, donc qui impliquent des éleveurs, qui impliquent des agriculteurs. Donc sans résoudre ces questions-là, il est difficile que les solutions jusque-là essayées donnent des solutions. Donc pour moi, c'est une question de manifestation. Et pour la question du djihadisme ou terrorisme, c'est important parce qu'on a l'impression d'abord que c'est une instrumentalisation des deux côtés. Instrumentalisation, la première idée, c'est de penser que finalement, certaines communautés sont instrumentalisées par les groupes extrémistes violents pour se faire recruter, mais également l'instrumentalisation inversée, parce que les groupes aussi utilisent leur proximité avec les groupes qualifiés de terroristes pour justement régler leurs comptes avec les autres communautés. C'est-à-dire l'alliance avec, par exemple, l'État islamique dans le Grand Sahara procure une certaine puissance militaire qui les permettrait de jouer sur le renversement d'ordre social qui prévaut et qui ne les arrange pas. Et de l'autre côté, on instrumentalise également les forces armées régulières, en parlant de Barkhane, de MINUSMA, de FAMA, quand elles sont là, pour combattre d'autres communautés en les taxant, les qualifiant d'appartenance à des groupes djihadistes tels que l'État islamique dans le Grand Sahara. Donc ça demande beaucoup de précautions, parce qu'on a des gens qui sont en conflit, on a des gens qui instrumentalisent toutes les situations qui s'offre à elle.
D'accord. Mohamed Akissa Feitan, sur place là-bas, la population, les autorités locales, qu'est-ce qu'elles pensent de cette situation? Est-ce qu'elles pensent que c'est un affrontement intercommunautaire ou des attaques ciblées?
Écoutez, par rapport d'abord à la population pense qu'il faudrait vraiment une diligence rapide de l'accord d'Alger, parce que les armes circulent partout dans les zones reculées où l'administration n'y est pas. Et ce qui fait que les règlements de compte sont fréquents. Donc, la population, il faudrait d'abord appliquer cet accord et surtout le fameux DDR qui tarde encore, n'est-ce pas, à se concrétiser. Les autorités, quant à elles, font ce qu'elles peuvent. Je l'ai dit tantôt, il y a toutes les semaines des réunions pour essayer de réfléchir à la situation, voir ce qu'il faudrait mettre en œuvre avec les groupes armés, l'AMINUSMA, les FAMA, Barkhane, pour mettre fin à la situation. Et quand bien même, c'est très difficile, en tout cas pour les populations, parce que beaucoup de foires vont presque fermer, beaucoup de foires vont également fermer. Donc, grosso modo, l'explication passe que tout réside dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Si le DDR est fait, alors on saura qui est armé et qui n'est pas armé pour elle. En ce moment-là seulement, on pourrait en tout cas avoir des pistes de solutions par rapport à cette situation qui perdure et qui fait extrêmement taire en tout cas aux citoyens dans la ville de Menaka et bien entendu les autres secteurs de la région comme Andramboukan, Sidarmen et puis bien entendu Menaka.
Mais en attendant que le DDR soit effectif, il y a également une autre chose qui est que la présence de l'administration malienne n'est pas effective, ça c'est vrai. Mais il y a des groupes armés qui ont pris des armes en disant qu'ils veulent sécuriser les populations. Qu'est-ce que ces groupes armés qui sont présents là-bas sont en train de faire, puisqu'il y a des attaques qui se multiplient?
Oui, évidemment, les groupes armés travaillent de connivence avec les forces armées, parce que si vous prenez l'exemple de Menaka, les groupes armés patrouillent chaque nuit avec, bien entendu, les forces armées. Maintenant, en dehors de Ménaka, effectivement, les groupes armés font ce qu'ils peuvent, mais il est pratiquement impossible, vu leurs moyens modestes, leurs moyens limités, de sécuriser cette zone parce que c'est une très vaste zone où ça circule beaucoup. Et les seuls engins qui peuvent se trouver, ce sont les motos, qu'on ne peut pas chaque fois voir. Vous venez de le dire, les gens qui ont attaqué les gendarmes sont venus à moto à l'improviste. On ne sait pas à quand ils vont venir, on ne sait pas quand ils vont attaquer. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est un peu la situation. Les groupes armés à l'extérieur n'ont pas véritablement les moyens. Ceux qui sont en ville, ceux qui sont partis avec l'administration et puis les forces armées, Barkhane, etc. C'est un peu ça.
D'accord. Baba Dakono, quel est le poids de ces groupes armés aujourd'hui? Puisqu'ils ont signé un accord en disant qu'ils vont sécuriser la population, qu'ils vont laisser les armes, ils ne vont plus combattre. Mais jusqu'à présent, la population qu'ils disent représenter sont en train de s'affronter.
Alors, deux éléments à ce niveau. Le premier, c'est qu'il faut voir la trajectoire du processus de paix lui-même et se rappeler que ces groupes ne sont pas en fait un ensemble monolithique. Depuis Ouaga, on a vu des compositions de Ouaga en parlant de l'accord préliminaire en 2013. On a vu un regroupement. L'objectif à l'époque, pour le gouvernement, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Donc on a eu un regroupement qui a été créé. Et entre mai 2013 à Ouaga et le début des pourparlers en 2014 à Alger, il y a eu toute une recomposition des groupes. Et il ne faut pas non plus occulter que ces groupes ont été, même si aujourd'hui il y a une fin de belligérance, ces groupes ont été souvent opposés entre groupes d'autodéfense et groupes qui est dans la revendication politique. Il y a eu souvent des oppositions. Il ne faut pas oublier que les groupes d'autodéfense, pour la plupart, ont été créés pour faire face à la situation née de la rébellion armée du fait des groupes armés qui voulaient l'indépendance. Donc c'est un des paramètres à avoir à l'esprit. Le deuxième élément, même l'État, même Barkhane, avec tous les moyens qu'ils ont, vous voyez, tout le monde peine aujourd'hui à résoudre la question. Donc ça fait peut-être un mauvais procès de demander à ces groupes armés de résoudre un problème tout un État, appuyé avec des partenaires de la puissance de ceux qui sont là, n'ont pas pu résoudre. Et finalement, nous rappeler que la solution n'est pas donc que militaire et que sécuritaire, parce que le problème, fondamentalement, n'est pas sur une base sécuritaire.
Vu l'évolution de la situation.
Moi, j'aime bien rappeler que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu obtenu la réunification d'un pays par le dialogue. Ça n'a jamais existé. Il y a eu deux cas. Par la force, réunification par la force, le cas du Vietnam, ou par l'effondrement, le mur de Berlin. Je suis persuadé que dans le nord du Mali, ce n'est ni par la force, ni par l'effondrement, parce qu'on a pensé qu'à un moment, les groupes allaient s'effondrer, puis ils ne se sont pas effondrés, ils tiennent toujours, malgré tout, il y a des passerelles entre les groupes. Je suis persuadé que ce ne sera pas la gouvernance. C'est une erreur de dire, il faut faire le DDR tout de suite, parce que le rebelle qui dépose les armes, il n'est plus rebelle et il n'a plus de capacité. Il ne compte plus s'il dépose des armes. Donc, il faut le mettre en confiance. Un, le drapeau national doit flotter partout sur le territoire national. C'est quasiment le cas aujourd'hui, puisqu'il y a même symboliquement un gouverneur à Kidal. De l'autre côté...
Mais au centre du pays, est-ce que c'est le cas là-bas? Puisqu'il y a des écoles qui
dans
restent
le delta,
fermées.
Dans le delta intérieur de Niger, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a l'insécurité, l'administration n'est pas là. Mais l'administration n'est pas là. Ce que je dis par rapport aux islamistes ou aux djihadistes, c'est qu'ils ne contrôlent pas, ils ne dirigent pas 100 mètres carrés au Mali. Ils ne peuvent pas gouverner une ville, ils ne peuvent pas diriger de ville. Ils peuvent empêcher de diriger une ville, est-ce que vous voyez? Mais à partir du moment où le drapeau national flotte partout, quand je dis flotte partout, ce n'est pas dans tous les hameaux, etc. Mais partout, je dirais, dans toutes les régions. Ce n'est pas la gouvernance qu'on va s'en sortir, de mon point de vue. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on insiste sur le DDR, pensant que c'est le DDR qui est la solution. Ce n'est pas la solution, le DDR, vous le dites tout à l'heure. Il y a eu le MOC. Le MOC, c'était avant le DDR. Le MOC n'existe plus parce que depuis qu'on a déstabilisé, tué des centaines de personnes, d'abord à Gao et ensuite à Tombouctou, ils n'ont plus le moral, les troupes. Les troupes, elles n'ont plus le moral. Donc, ce n'est pas la gouvernance. Je pense qu'on se précipite un peu vers le DDR en pensant que ça va régler le problème. Ils ne vont pas désarmer parce que s'ils désarment, à partir du moment où ils déposent des armes, ils ne sont plus rebelles. Donc, il faut repenser. Je vous dis, franchement, pour une fois, je suis à court d'idées parce qu'on ne peut pas avoir autant
mais
de
Serge,
victimes.
Juste une précision. Oui. Dans l'accord de paix, c'est des processus qui sont prévus dans l'accord de paix. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés de stratégie ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous dites que
ce n'est
pas ça la solution.
Je pense qu'on a mis un peu... Non, c'est pas seulement... Je ne dis pas que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ça seulement la solution. Il y a un problème de développement. Si vous allez dans les hameaux les plus reculés, ce que les jeunes disent, par exemple, c'est que pourquoi voulez-vous que nous dénoncions, par exemple, les djihadistes ? Les djihadistes nous donnent à manger, ils nous donnent par exemple des médicaments. Pourquoi voulez-vous que nous les dénoncions alors qu'il n'y a pas de présence de l'armée, il n'y a pas de présence de l'administration? Et si nous dénonçons les djihadistes, nous savons ce qui se passe, ils vous coupent la tête et ils amènent votre tête au marché. Donc il y a la présence de l'administration qui est nécessaire, mais l'administration ne peut plus être partout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus diriger ce pays au centre et au nord comme on l'a fait il y a 20 ans, il y a 15 ans. Donc on a besoin d'innover, est-ce que vous voyez? Je veux dire que de manière concomitante, au moment où on parle du développement du DDR, il faut parler du développement de ces zones-là. Ce n'est pas forcément, de mon point de vue, le cas aujourd'hui. Il faut inventer un autre type d'administration dans ces localités. Est-ce que vous voyez ? Parce que, je ne sais pas, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il faut peut-être inventer une autre appellation de quelqu'un qui va s'appeler, pas le sous-sous-préfet, mais quelqu'un qui est sous le préfet, si vous voulez. On ne peut plus gérer ces zones. L'État n'a plus les moyens, notre armée, nos armées n'ont plus les moyens de gérer ces zones comme on les gérait il y a 10 ans.
Mais est-ce que cette administration peut être mise en place sous cette tension?
Oui, il faut faire les deux choses, parce que si vous dites nous allons désarmer les gens avant de mettre l'administration, non. Mon sentiment, c'est que la nouvelle armée malienne, l'armée dont on peut rêver, dont on doit rêver, peut-être qu'on parlera du centre tout à l'heure, parce qu'il y a une cérémonie importante demain à Mopti. Vous avez le chef militaire de l'aile du groupe armé Dogon, qui a déposé les armes et qui va venir pour la première fois à Mopti. C'est un symbole pour moi assez fort. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces éléments? Si tout de suite, il n'y a pas un processus pour, pas récupérer, excusez l'expression, pour tout de suite occuper les combattants qui vont sortir de ces rangs, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce qu'ils vont repartir dans d'autres groupes, est-ce que oui? C'est pour ça que je dis que de manière concomitante, il faut faire plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas quoi exactement, mais c'est ce qu'il faut faire.
Pensez-vous que cette stratégie peut être mise en œuvre, Baba Dakounou? Cette stratégie que propose Serge Daniel?
Oui, elle peut être mise en œuvre, mais la question même, ce n'est plus la possibilité ou pas de le faire, mais c'est l'indispensable ou l'impérieuse nécessité de le faire. C'est pourquoi, dans l'accord d'ailleurs, il est prévu un pan important de réformes politiques et institutionnelles. Et malheureusement, ces réformes politiques et institutionnelles ont été toujours perçues comme découlant d'un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés et ne concernant que ceci. Il n'y a pas eu cette phase d'appropriation nationale de ces questions de réformes politiques et institutionnelles qui pourraient pourtant être ou qui sont importantes pour l'ensemble des communautés maliennes. Vous savez, les problèmes que connaissent aujourd'hui les régions qui sont indexées par rapport à la crise sont des problèmes communs à toutes les localités, notamment périphériques du pays. C'est les mêmes problèmes qu'on rencontre à Kaï, ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre à Sikasso. Je suis d'accord sur le fait que le modèle de gouvernance observé jusque-là a montré des failles. Et c'est justement ces failles qui sont exploitées par les différents groupes armés, que ce soit des groupes armés qualifiés de terroristes ou que ce soit les groupes armés, les réseaux criminels. Ils ont cette capacité à détecter toutes les failles de la gouvernance et à exploiter ces failles pour s'imposer, pour s'installer et pour créer la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, au-delà de la possibilité, c'est une nécessité aujourd'hui d'aller en même temps dans le processus de DDR. Et je suis d'accord sur le fait que ça ne peut intervenir que lorsqu'on a rétabli un minimum de confiance. À une certaine période, on était sur la bonne lancée. Et jusque-là, avec la fin de la belligérance entre ces groupes armés et le gouvernement malien, ça constitue aujourd'hui des bases pour construire progressivement, sinon davantage, cette confiance. Et c'est à partir de cette confiance qu'on pourra mettre en œuvre les autres pans de la mise en œuvre de l'accord, notamment le DDR, qui n'est pas l'élément le plus, c'est important, mais pas le plus indispensable dans la phase actuelle du processus.
Serge Latouche. On n'a pas intérêt à ce qu'il désarme. Excusez-moi de parler brutalement comme
ça. On n'a pas intérêt.
On n'a pas intérêt à ce qu'il désarme brutalement.
Pourquoi?
Parce qu'ils peuvent être utiles. Vous avez vu ce qui s'est passé aux élections. Vous avez eu des groupes armés et l'armée régulière et les casques bleus qui ont organisé des patrouilles ensemble pour sécuriser les élections.
Mais à ce niveau,
il
y a certains responsables, par exemple, de l'opposition qui ont estimé que ces groupes armés n'ont pas été impartiaux dans ce processus.
À ce niveau, je voulais juste apporter une précision. Il y a historique, c'est que dans ces localités, que ce soit les groupes armés, c'est toujours les leaders communautaires qui donnent le sens du vote. qu'il le fasse dans le cadre du groupe armé ou dans un autre cadre, la situation n'a pas beaucoup changé. Ce sont des sociétés fortement hiérarchisées où on a l'habitude de voir le chef d'une communauté qui donne la consigne de vote et qui est respecté de façon stricte, que ceci soit armé ou pas.
Poursuivez, Serge.
Non, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à la limite, pour faire face au terrorisme aujourd'hui, on n'a pas intérêt à les désarmer tout de suite. Vous désarmez, qu'est-ce que vous faites d'eux ? Qu'est-ce que vous faites d'eux ? S'ils n'ont rien à faire, ils vont aller dans les groupes terroristes. Et les groupes terroristes sont aussi armés, si vous voulez. Donc c'est le juste milieu, de mon point de vue, qu'il faut trouver. Ce dont on peut rêver, la nation arc-en-ciel dont on peut rêver, demain dans le centre ou dans le nord, et ça c'est vraiment mon point de vue depuis un moment, peut-être pour régler la question, pour tenter de régler la question, c'est de voir d'ex-rebelles au sein de l'armée régulière. Parce que vous ne pouvez plus, vous savez, à Kidal, par exemple, quand il fait chaud, vous avez parfois jusqu'à 50 degrés à l'ombre. Quand il fait 50 degrés à l'ombre à Kidal, et qu'ici il fait 23 degrés, ce n'est pas la même chose. Quand il fait 50 degrés, personne ne travaille. Est-ce que vous voyez ? Vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes obligé d'être enturbané là-bas pour lutter contre le vent, par exemple. Ici, non. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde de s'habiller dans une armée de la même manière. C'est pour ça qu'il y a des méharistes, par exemple. Il faut tenir compte, je pense, du fait culturel aussi, pour pouvoir, de mon point de vue, s'en sortir et arrêter parfois avec ce nationalisme ombrageux qui dit « Oui, voilà, nous sommes jacobistes, et que oui, voilà, l'armée doit être quelque de partout, il faut l'autorité de l'État. » Oui, il faut l'autorité de l'État. Mais quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique de ses moyens.
Mais quand ces autorités locales donnent le temps aux populations pour qu'ils aillent voter pour quelqu'un et après qu'ils dénoncent le modèle de gouvernance choisi par cette même personne pour qui ils ont voté, est-ce qu'ils ne doivent pas s'attaquer à eux-mêmes ?
Quand on décrit le modèle de gouvernance, on décrit toujours le pan ou la partie qui nous concerne pas. C'est-à-dire, on a toujours fait comme ça. On estime que ça marche comme ça. Donc, ce qu'il faut améliorer, c'est peut-être comment la justice est rendue, comment l'État est représenté au niveau des localités. Voilà le type d'état d'esprit qu'on peut rencontrer quand on a ces types d'interlocuteurs. Mais cela ne doit pas occulter les réformes qui doivent s'imposer à tout le monde. Comme je l'ai dit, quel que soit le type de gouvernance qu'on va mettre en place, c'est une pratique qui est ancrée dans la culture, qui n'a pas forcément épousé tous les contours du modèle démocratique qu'on a dans le Mali actuel. Et ça nous donne l'occasion, ce qui s'est passé là-bas et qui s'est passé pendant très longtemps, justement d'interroger le type le modèle démocratique qu'il nous faut, comment construire notre processus électoral pour qu'enfin, qu'au nord ou dans d'autres localités, le vote puisse s'exprimer en toute liberté, qu'il se soit fait en liberté, en présence ou à l'absence d'armes, que le rôle de l'argent soit moins important dans d'autres localités. Donc ce sont toutes des questions qui doivent être prises en compte dans le chantier de réforme qui doit être engagé. 2013 déjà, ça devrait être le cas. C'était important de le faire en cette période. Aujourd'hui, c'est indispensable d'y aller et de le faire.
D'accord, Serge. Le quartier général du G5 Sahel sera transféré de Sévaré à Bamako et selon les dirigeants de la force, cette délocalisation du QG permettra à l'unité de commandement d'être dans un environnement adéquat pour sa mission. Alors, le QG du G5 Sahel est-il utile au centre du pays ou à Bamako ?
Il est plus utile au centre qu'à Bamako, disons les choses.
Mais pourquoi donc délocaliser ce QG ?
Parce que justement, au centre, comme vous le savez, il y a eu des attaques. Il y a eu une attaque quand même assez lourde, il y a eu des pertes en vie humaine, mais surtout, il y a du matériel qu'il faut remettre sur pied. Donc, stratégiquement, ils estiment qu'il faut venir dans un premier temps à Bamako. Mais c'est la photo limace qui est mauvaise. Parce qu'au lieu d'aller 600 km plus au nord, donc vers les djihadistes, c'est comme si les djihadistes avaient réussi et qu'on descend, on recule 600 km plus au sud. Donc, l'image, quand même, est un peu, le symbole est un peu négatif, si vous voulez. Mais dans le fond, il y a des problèmes internes, que le G5 soit ici à Bamako ou à Mopti, il y a des problèmes qu'il faut régler. Parce que le poste de commandement, c'est 101 personnes, c'est 101 militaires. C'est pas les gens ont l'impression que le camp de Sévaré, c'était des milliers de militaires. Non, c'est-à-dire c'est la centrale, le poste de commandement, là où on centralise tout. Vous savez, il y a trois fuseaux, le fuseau centre, le fuseau est et le fuseau ouest. Mais c'est pas des militaires, c'est pas des centaines de militaires qui sont là-bas. Mais c'est plutôt la photo qui n'est pas belle, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller 600 km plus au nord, on revient 600 km plus au sud. Donc elle n'est pas belle, cette photo.
Au lieu d'aller vers l'insécurité, est-ce que le QG est en train de venir vers la sécurité pour se protéger elle-même et lui-même?
D'un point de vue symbolique, oui, ça renvoie le mauvais message. Autant quand le quartier général a été ouvert à Sévaré, tout le monde l'a accueilli avec une certaine hantise, avec beaucoup d'attentes. Autant aujourd'hui que le quartier général soit à revienne à Bamako ou soit transféré à Bamako, c'est la même dimension symbolique. On se rend compte, comme Serge le disait, finalement, est-ce que avec cette attaque, avec leur forte campagne, en parlant des terroristes, ne sont pas parvenus à faire reculer cette force qui est née pourtant pour les combattre notamment. Mais en parlant de force conjointe du G5 Sahel, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Serge a touché la question de trois fuseaux. C'est quand même trois fuseaux. Il y a centre, il y a ouest, il y a est. Mais il y a également plusieurs niveaux de commandement ou de coordination. On a le PC tactique qui est à Niamey. On a donc ce quartier général qui était à Sévaré et maintenant qui est à Bamako, à ce que les autorités disent momentanément. On a aussi les postes de commandement. On a Our à Mauritanie jusqu'à Alouache, je crois, El-Walache, vers l'Éré, frontière Mali-Mauritanie. On a également au niveau du Tchad des postes de commandement. Donc en fait, la force conjointe du G5 Sahel, c'est plusieurs pôles opérationnel et pôle de décision. Donc, la mission fondamentale, c'est pourquoi je disais que c'est en termes de symbolique que c'est important, ça donne un message assez négatif, mais d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue pratique, que le quartier général il soit à Sévaré ou qu'il soit à Nouakchott ou à Gao ou à Bamako, il va jouer exactement le même rôle de coordination, le même rôle de communication et le même rôle de facilitation. Mais au-delà de tout ça, ça pose finalement la question de ceux qui sont chargés de sécuriser, est-ce qu'ils ne vont pas être pris dans le bourbier de vouloir se sécuriser eux-mêmes plus qu'assurer la mission de sécurisation? On s'est rendu compte de ça avec l'AMUNISMA, on se rend compte de ça avec d'autres types de forces de sécurité qui sont déployées sur le pays. Est-ce que la force conjointe du G5 n'est pas exposée au même problème? C'est sécuriser pour ensuite faire face à la mission.
Les djihadistes s'attaquent généralement à ces différents camps, au QG du G5 Sahel et autres. Est-ce que ce QG, en se déplaçant à Bamako, ne va pas attirer les djihadistes vers la capitale aussi?
Je pense que vous avez peur pour vous d'abord. Non, mais je pense que... Non, effectivement, je pense que ce qui va se passer dans le mental des djihadistes, parce qu'ils écoutent beaucoup les informations, c'est de dire « nous avons gagné ». Ils rêvent de quoi, les djihadistes, aujourd'hui? Ils rêvent que la mission de l'ONU au Mali plie bagage, exactement comme le G5 vient de plier momentanément, comme vous le dites, bagage, du centre vers le sud. Pour eux, c'est forcément une victoire. Et je parie, tel qu'il fonctionne, que fonctionnent ces mouvements terroristes, vous allez bientôt probablement avoir des outils de propagande qui vont sortir, où vous allez les voir défiler, dire qu'ils ont gagné, etc., etc., etc. Je pense qu'à Bamako, ils vont prendre les dispositions. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de redéménager parce qu'ils étaient à un endroit à Bamako et que l'AMUNISMA a mis visiblement à leur disposition de nouveaux locaux. Mais on dit que c'est pour un temps, on va voir. Mais l'image est vraiment, en termes de symbole, elle est vraiment, c'est vraiment négatif.
L'autre question qui se pose, quelle est l'utilité de ces forces étrangères, ces forces régionales, quand on voit le G5 Sahel aujourd'hui? On parle même de problèmes de financement concernant cette force.
Alors, pour la force conjointe du G5 Sahel, je ne la mettrai pas dans le groupe des forces étrangères parce que c'est d'abord une force régionale. Et d'ailleurs, les premières opérations, avant d'avoir les patrouilles communes, c'était des patrouilles qui étaient menées essentiellement par des troupes maliennes dans les localités du centre. Bien entendu, il y aura dans une autre phase ces patrouilles mixtes. Mais à propos de la force conjointe du G5 Sahel, il y a deux éléments quand même qu'il est important d'appréhender. Le premier élément, c'est qu'on se rend compte qu'on a perdu 5 ans. Parce que la force conjointe du G5 Sahel, c'est exactement ce que les chefs d'État de la CEDEAO demandaient en 2013, quand on parlait de mission africaine qui serait sous le chapitre 7 des Nations Unies. Ce qui permettrait d'assurer un financement pérenne à une mission africaine qui était premièrement animée par des acteurs militaires africains et qui allait être conduite dans le Sahel avec comme première opération le Mali qui était sous le feu de l'action à l'époque. Il y a eu beaucoup d'échanges, on se souvient de toutes ces réunions de contact de la CEDEAO, de tous ces plaidoyers au niveau des Nations Unies, qui finalement n'a pas abouti parce qu'il y avait deux pays principalement qui étaient réticents et on a abandonné cette idée. On allait progressivement vers la création de l'AMUNISMA. Alors en 2017, et en 2018 qu'on revienne, qu'on refasse la campagne sur cette force régionale essentiellement africaine et que la question du budget soit toujours pendante. C'est rappeler qu'on a perdu vraiment beaucoup de temps.
Justement, ça ne pose pas la... est-ce que ça ne pose pas la question, quand vous parlez de réticence de deux pays, que les pays africains ont plus confiance aux forces étrangères qu'en leurs forces elles-mêmes, puisque la discussion a été en cours depuis 5 ans?
Alors, j'ai dit réticence pour que cette force soit sous le chapitre 7 des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, qui allait permettre de financer de façon pérenne, bon, de façon le temps qu'elle dure, et de façon systématique cette force. Donc on n'aurait pas eu cette question aujourd'hui de financement de cette force conjointe du G5 Sahel. Ça, c'était à l'époque, en 2013, quand la mission était pensée. Mais vous allez comprendre que quand on parle de Nations Unies, quand on parle d'enjeux géostratégiques, on parle également d'agenda des États qui composent ces nations, et quand le problème n'est pas analysé sous le même angle, avec le regard de l'impact sur soi, c'est difficile qu'on puisse concilier les parties. C'est d'ailleurs le principal problème du financement aujourd'hui. Même au sein du G5 Sahel, on a l'impression que souvent les États n'ont pas la même priorité par rapport à là où il faut commencer, par rapport à comment ça va être géré. Et c'est le même rapport difficile entre les États de la force conjointe du G5 Sahel et ceux dont il espère le financement. Donc ce sont des questions à résoudre, et comme je le disais, on aurait pu les résoudre depuis 2013 et aujourd'hui être face à une force opérationnelle qui est financée. Donc justement, le deuxième élément que j'allais rappeler, c'est l'agenda et les questions de financement. Cette force conjointe du G5 Sahel, même s'il n'a pas atteint tous les financements, n'a pas atteint le financement escompté, il faut quand même admettre qu'elle focalise l'attention. C'est elle aujourd'hui qui attire le plus d'observations, le plus d'intérêt des acteurs internationaux. Alors qu'on sait qu'il y a quand même le secrétariat permanent du G5 Sahel qui a son programme d'investissement prioritaire et qui permet de résoudre des problèmes sous-jacents sur lesquels se construisent les facteurs d'insécurité. Et donc, qu'on le dise, qu'on le répète, le tout sécuritaire n'est pas la solution. Pour répondre à votre question, il faut regarder beaucoup d'autres points. C'est difficile tant que la plupart des États sont plus intéressés par des opérations sécuritaires que par les questions de gouvernance ou d'autres types de questions de développement qui permettent de prévenir cette insécurité.
D'accord. Mohamed Adissa Feitan, juste une seconde. Est-ce que les populations à Menaka, là-bas, se sentent sécurisées, par la présence de ces forces étrangères, notamment Barkhane, MINUSMA?
Les commentaires vont d'une personne à une autre. Hein. Il y en a qui saluent les actions d'abord très humanitaires de Barkhane, parce que Barkhane, faut-il le rappeler, a quand même donné de l'eau. Barkhane a fait certains gestes, en tout cas, humanitaires à l'égard des populations. Maintenant, les commentaires vers l'administration sont plutôt c'est étonnant, parce que pour les gens, comment est-ce que l'administration, avec tous les moyens qu'elle a, ne peut pas sortir en dehors de Menaka comme les autres forces pour aller sécuriser les gens? Alors, ça étonne un peu les gens. En tout cas, d'une personne à une autre, on se sent sécurisé ou pas. Parce que si chaque nuit, il y a des braquages à Menaka, ça étonne beaucoup. Quand bien même, cette mouvement et ces forces-là se trouvent dans la ville. Donc, nombre de personnes, en tout cas, aujourd'hui, et qui avaient un certain espoir aujourd'hui, ont perdu cet espoir par rapport aux événements qui se passent actuellement. Il ne se passe pas de nuit, il n'y a pas de braquage, ici, les kéris qui ont lié, n'est-ce pas, à Menaka. Alors, permettez-moi un peu de répondre un peu à ce que Serge Daniel a dit pour dire encore que les populations passent du DDR, parce que ça ne doit pas se passer brusquement pour elles. Alors, il faudrait l'accompagner, parce que pour les populations, regardez aujourd'hui, quand vous prenez Darmen est à 105 km de Menaka, il n'y a pas de rue. Écart est de l'autre côté, il n'y a pas de rue. Alors, pour installer une administration aujourd'hui, il faudrait d'abord au préalable que des forces soient présentes pour sécuriser ce préfet ou bien cet enseignant qui est là pour parler de sécurité. Maintenant, le DDR, d'après les populations qu'on a rencontrées, il y a non seulement l'intégration, quand on dépose l'arme, on est soit intégré dans l'armée, ou bien on a un projet de choses comme ça, donc les populations voient cet angle-là pour essayer de mettre fin au péril et essayer de voir qui est qui pour justement ramasser les armes et sécuriser les gens.
D'accord, Serge, quelle utilité de ces forces?
Moi, je voulais dire deux autres choses rapidement, parce qu'on arrive un peu au terme de l'émission. Si vous avez les forces étrangères qui quittent le Mali aujourd'hui, les djihadistes vont revenir. C'est pas méchant de le dire, c'est la stricte réalité. Tous les experts le disent. L'armée malienne, elle seule, ne peut pas, pour le moment, assurer la sécurité.
Mais qu'est-ce que ces forces étrangères font? Sont-elles plus dans l'humanitaire?
Oui, mais parce que, justement, il y a un mandat. Le problème de la MINUSMA, c'est que lorsqu'elle est arrivée, elle n'a pas beaucoup expliqué le mandat sous lequel il était arrivé. Ben, le corps à corps avec les terroristes n'était pas dit clairement. Ça, c'est ce que je pense sur la présence des forces étrangères. Ce n'est pas possible au Mali d'assurer à lui seul la sécurité.
Même avec la force G5 Sahel.
Même, justement, je vais venir à la force G5. Il y a deux pays importants qui ne veulent pas entendre parler de la force G5. Vous avez l'Algérie, qui avait créé ce qu'on avait appelé le CEMOC, je crois. Exactement. Qui ne veut pas entendre parler de la force G5. Et il y a les Américains. Vous avez les Américains. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure du mandat. On n'a pas pu, jusqu'à présent, donner un mandat onusien à la force G5. Or, ici, à Bamako, je me souviens, le président Déby du Tchad a dit « Ce que nous voulons, c'est un peu de moyens et que les pays qui envoient leurs troupes se battre chez nous fassent l'économie de la vie de leurs citoyens et qu'on nous laisse nous gérer nos problèmes. » Donc, il y a les Américains qui ne veulent pas, puisqu'ils préfèrent faire du bilatéral.
Mais justement, pourquoi ces deux pays ne veulent pas que les
Mais
Africains...
Mais parce que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'Algérie se dit, nous, notre loi fondamentale nous interdit à nos troupes d'aller se battre en dehors de notre territoire. Le G5, l'idée, c'est pour le moment... Il y a trois fusées, comme on le disait tout à l'heure, ils sont aux frontières, les soldats sont aux frontières, mais tôt ou tard, ils vont forcément bouger. Donc vous allez avoir l'armée, par exemple, mauritanienne dans le nord du Mali. Or, le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Donc en termes de géostratégie, en termes d'influence, un pays comme l'Algérie ne veut pas entendre parler de G5. Et quand vous discutez avec les responsables algériens, ils le disent clairement. Ensuite, vous avez le problème du financement. Le financement est quasiment bouclé sur papier. Mais vous savez, quand la France... J'ai un ami qui a assisté à un huis clos en France très rapidement sur le financement. C'était un Nigérien qui disait aux Français, mais vous avez promis de l'argent. Nous savons que ce n'est pas de l'argent que vous allez nous donner, c'est du matériel français. Au moins, le matériel que vous nous donnez, il faut que le matériel soit bon. L'Arabie Saoudite, vous savez, a donné 100 millions de dollars, je crois. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que les Européens voulaient faire? Ils voulaient tout de suite prendre cet argent et revendre des armes aux pays du G5. Les pays du G5 ont dit non. À l'époque, c'était Thiemo Hubert Koulibaly qui était ministre des Affaires étrangères du Mali. Ils ont créé une fiduciaire en disant les fonds qu'on nous donne, on va les mettre quelque part et les gérer. Donc, ils ont des problèmes à l'interne également.
Une autre question, voilà. Serge. Ces pays ont-ils plus, notamment les États-Unis, ont-ils plus à gagner dans cette crise qu'à perdre?
Ah oui, bien sûr, ils ont gagné parce que ce qu'ils appellent avec Bush aujourd'hui, vous savez que Trump, vous savez ce qu'il conseille aujourd'hui, c'est que Trump dit si vous utilisez le dollar pour faire du commerce, donc pour acheter du pétrole, il faut que vous appliquiez nos lois parce que le dollar est américain. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est un jeu d'intérêt. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et quant à la France, je suis persuadé, j'en aurais terminé, que la doctrine Macron, c'est de se désengager du Sahel en disant, moi, j'ai des milliers de troupes là-bas, j'ai besoin d'eux ailleurs. Il faut que les Africains eux-mêmes assurent leur sécurité. On va les aider à avoir les moyens d'assurer leur sécurité. Mais moi, Barkhane, si je peux retirer mes troupes, moi, je ne dirai pas non. Donc voilà. Donc ce sont des intérêts, c'est un jeu d'intérêts qu'il y a entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Quand est-ce que ces Africains vont pouvoir être indépendants, assurer leur propre sécurité?
Ça, c'est une grande question. Déjà, ils vous diront qu'ils sont indépendants. En tout cas, il y a la souveraineté d'un point de vue politique. Mais on sait qu'à l'exception de cette souveraineté politique, tout le reste est lié aux questions économiques. On pourra assurer la sécurité. L'exemple tchadien aujourd'hui qui est beaucoup cité et qui l'a été notamment en 2013, c'est parce qu'à une certaine période, le Tchad a vu sa croissance économique évoluer de façon exponentielle avec le pétrole et qui lui a permis d'assurer cette sécurisation, de réformer l'armée et de lui donner le prestige qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est beaucoup lié aux questions économiques. Et ensuite, je ne ferai pas la même analyse monolithique de l'Afrique. C'est vrai que c'est un continent, mais il faut savoir qu'il y a un décalage souvent très tracé entre les différents pays qui composent ce continent. Donc ce n'est pas tous les Africains aujourd'hui qui sont fondamentalement et obligatoirement dépendants du soutien de l'extérieur. Il y a des pays qui le sont encore, qui le seront tant qu'économiquement ils ne pourront pas s'affirmer.
Quelle est la solution aujourd'hui pour le Mali?
Le Mali, c'est de
principalement, avant tout et en tout, gérer les problèmes de gouvernance. Ce sont les failles de gouvernance qui sont exploitées. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Avant, c'était autre chose. Les insurrections, le terrorisme, la criminalité, tout ça se construit sur les failles de la gouvernance.
C'est un seul exemple. Dans mon studio, tout à l'heure, quand j'arrivais, j'entendais les titres. Mm-hmm. Il y a des bus qui sont bloqués de Gao à Ambori qui ne peuvent pas bouger depuis. Donc, à partir du moment où vous arrêtez la vie, c'est un terreau favorable au développement du terrorisme. Parce que les terroristes qui se baladent à moto vont venir vont apporter à manger aux populations.
Est-ce que les autorités maliennes pourront relever ce défi ?
Posez-le la question, monsieur. C'est votre boulot.
Merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités. Serge Daniel, journaliste et écrivain. Baba Dakouno, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Mohamed Ag Issa Feitane, correspondant de Studio Tamani à Menaka. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani. Mise en onde assurée par Mamadi Ouattara et à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue, Sigi Kafoba et Dewani Wamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouni.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.